Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus, émission Tous Essentiels, tous les premiers lundis du mois, de 8h à 9h.
Bonjour Nadia, merci beaucoup pour cette superbe intro. Aujourd'hui, on est aux manettes avec Nadia parce que Max est parti jouer au ballon au bout du monde. Donc on va le laisser gonfler des ballons et créer des paysages extraordinaires avec. Et en attendant, on reçoit Julie qui est. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors Julie, tu vas d'abord, avant qu'on se présente et qu'on aborde notre sujet préféré, le revenu de base, répondre à une petite question, notre devinette ritournelle. Imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, il n'y a rien à faire, et tu sais que c'est jusqu'au bout de ta vie. Qu'est-ce que ça change pour toi ?
Pour moi, ce que ça change, d'abord, c'est le fait de sortir de la peur, de me dire que j'ai la sécurité de pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre et potentiellement de moduler aussi la quantité de travail que je fais ou même ce que je fais comme travail, plus en fonction du sens ou de mon rythme qu'en fonction de est-ce que j'ai besoin de cet argent pour vivre ou pas. Donc je crois qu'essentiellement, ce serait ça que ça changerait pour moi.
D'accord, donc c'est surtout en termes de rythme de vie, quoi.
De rythme de vie et de sens, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si j'ai quand même la chance de pouvoir faire des choses qui me plaisent dans ma vie, il y a quand même des fois où, clairement, je peux accepter du travail parce que j'ai besoin de la facturation qui va avec et pas forcément parce que je pense que ça a beaucoup de valeur, ce que je fais. Et c'est pas, en général, c'est pas les missions qui m'intéressent le plus.
Donc ça rejoint tous ceux qui doivent faire des petits boulots pour vivre, juste pour manger en fait, mais pas forcément pouvoir choisir. Donc là, j'entends que tu choisirais plus par rapport à l'utilité. Le sens que tu donnes, c'est une question d'utilité de...
C'est une question d'utilité, je pense, dans ce que j'ai envie de créer dans le monde et aussi d'utilité pour moi. Est-ce que ça me permet d'apprendre des choses? Est-ce que j'ai l'impression de contribuer réellement ou de juste faire du présentéisme et d'utilité et d'intérêt pour les autres et d'intérêt pour moi.
Il y a aussi une question d'épanouissement personnel. Si on cherche les motivations au travail, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que finalement on ne travaille que pour l'argent et que si on nous donnait de l'argent, on voudrait plus travailler. J'entends que c'est pas tout à fait ça non plus pour toi, comme beaucoup heureusement, mais tu choisirais mieux, ça serait ça. Bon, écoute, merci beaucoup. Alors, Julie, on s'est rencontrés par le revenu de base, mais aussi par la communication non violente. Donc, on partage beaucoup de choses et j'ai découvert que tu réussissais à vivre tes idéaux finalement au quotidien. Donc, je vais te laisser présenter Azaé. Mais qui est Azaé ?
Alors, Azaé, on est une toute petite entreprise. On est aujourd'hui six avec trois personnes qui sont vraiment à plein temps dans Azaé, donc c'est l'essentiel de la vie professionnelle, et trois personnes qui sont plutôt en périphérie. Et ce qui est particulier dans Azaé, c'est que c'est une entreprise qui a plus de 10 ans, mais toute personne qui rentre dans Azaé est co-gérante, c'est-à-dire qu'on fait vraiment en sorte de ne pas avoir de hiérarchie à l'intérieur de l'entreprise. Pas tant parce qu'on pense que la hiérarchie est forcément mauvaise, mais parce qu'on a vraiment envie de pouvoir décider ensemble et faire groupe ensemble sans qu'il y ait d'enjeu de pouvoir. En tout cas, en les minimisant au maximum. Donc, Azaé, c'est vraiment cette ambition-là. Donc, c'est une expérience humaine pour moi. Et c'est aussi, plus concrètement, la manière dont on gagne de l'argent, en faisant du conseil dans les entreprises, qui est aussi important, mais qui, pour moi, est moins dans l'importance que j'accorde à Azaé que dans ce qu'on y vit et dans les valeurs qu'on y partage.
Juste une petite parenthèse, Julie, est-ce que tu peux t'approcher un petit peu plus de ton micro pour qu'on t'entende plus fort? On t'entend très clairement,
Est-ce que tu peux me dire si comme ça, c'est mieux? Je ne sais pas exactement où est mon micro.
On n'a pas beaucoup de différence.
Je change. Est-ce que comme ça, c'est mieux?
Là, magnifique. Ne bouge plus.
Ça ne bouge plus.
Bon, tu n'es pas loin, hein, tu es à Paris, mais quand même.
C'est ça.
Oui, donc ce que j'entends, c'est que bien sûr, il y a la notion de l'argent parce que Parce qu'il faut vivre et qu'on est dans un système où l'argent, ça permet d'acheter de quoi manger, de se loger, etc. Et qu'en même temps, dans l'ASAE, vous cultivez d'autres valeurs et que les motivations pour être ensemble, c'est pas que ça, quoi.
C'est ça. Et ce qui est important pour moi dans ça, c'est de se dire que l'intérêt, c'est de réunir un petit peu les deux, le monde de l'entreprise tel qu'on l'entend, enfin du travail tel qu'on l'entend, et le sens, est-ce que je peux trouver pour pas avoir toujours à faire ce choix dans ma vie de est-ce que je travaille pour gagner de l'argent ou est-ce que je vais dans de l'associatif ou du bénévolat pour avoir du sens, ce qui me fait un rythme intenable. Et ASAE, c'est un petit peu le comment j'arrive à réunir les deux. Et je pense que les personnes qui se retrouvent à ASAE, c'est aussi pour des raisons similaires aux miennes.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts d'ASAE, comment ça s'est construit ?
Alors, je n'étais pas au début d'ASAE. Mais ça s'est vraiment construit sous le modèle du logiciel libre, avec le fait de dire on peut contribuer au commun, on peut faire ensemble, et on a la croyance que ça va fonctionner, qu'on n'a pas besoin d'être dans un système de compétition, de privatisation de ce qu'on produit. Et du coup, ça s'est vraiment basé sur les communautés du logiciel libre, de comment ces communautés de passionnés de l'informatique et du libre fonctionnaient ensemble. Que ce soit dans la création de produits, mais aussi dans la manière de décider ensemble, puisque la décision n'était pas centralisée, enfin n'est pas centralisée. Et donc, ASAE s'est vraiment inspiré de ce modèle-là. Et ça a commencé, ASAE date de 2011. Moi, je suis rentrée en 2017. Donc, 2017, ça a été aussi un petit peu un tournant, puisque avant, c'était essentiellement informatique. Je ne suis pas informaticienne, mais on a gardé vraiment ces notions de comment on décide ensemble, comment on fait en sorte de ne pas avoir une personne qui centralise le pouvoir et les décisions.
J'aime bien cette idée de changer le logiciel mais du monde de la société on va dire capitaliste mais en étant à l'intérieur, parce que j'entends que vous reniez pas un certain mode de fonctionnement ou de société, vous mettez pas en autarcie par rapport au reste de la société, et en même temps réussir à créer une petite bulle toujours en lien avec le reste du monde. Et pourtant, autour des valeurs, donc tu as parlé du logiciel libre, j'entends aussi bien commun, j'entends gouvernance partagée, etc. Donc que c'est possible, quoi. On n'est pas obligé dans le monde capitaliste, si on veut juste vivre, manger et se loger, de soit s'isoler complètement et faire son petit village. Et je n'ai absolument aucune critique contre ceux qui tentent ce genre de défi, mais c'est pas une fatalité. On peut construire à l'intérieur même et se créer des bulles d'autre chose, quoi.
C'est ça, en tout cas c'est l'ambition et c'est le pari qu'on fait.
D'accord. Donc j'entends surtout là pour l'instant un pari plutôt en micro-société, vous êtes combien aujourd'hui ?
Donc aujourd'hui, on est six, avec vraiment trois personnes qui sont centrales dans le sens où on est intégralement dans ASAE, on n'a pas d'autres revenus qu'à travers ASAE, enfin, c'est toute notre vie professionnelle est dans ASAE, et trois personnes qui sont un petit peu en périphérie, dans la mesure où elles ont un pied dedans, un pied dehors, avec l'idée quand même de mettre les deux pieds dedans, mais ça fait aussi partie de notre envie de pouvoir permettre aux personnes de venir voir et de voir si ça leur plaît plutôt que d'essayer de les emprisonner contre leur volonté.
Et est-ce que tu penses que ça pourrait être généralisable, puisque c'est en termes d'ambition sociétale, est-ce que ça pourrait ressembler à un mouvement plus grand
Alors, on s'est beaucoup inspiré des entreprises libérées et du réseau Libre Entreprise, et c'est des endroits où on voit que ça fonctionne à plus grande échelle. Ça demande forcément des adaptations, notamment de comment recréer des petits groupes à l'intérieur d'un groupe plus grand, parce que sinon, on perd le lien humain, et on voit que le lien humain, il est quand même essentiel dans ce qu'on fait. Mais il y a plein de modèles qui fonctionnent avec beaucoup plus de monde, et j'espère qu'à ASAE, on arrivera à être plus grand, notamment parce qu'en grandissant, ça nous permet de faire des apprentissages nouveaux aussi, et que c'est quelque chose qui nous plaît.
Merci beaucoup. Écoute, là, ce qui m'intéresse du coup, ça serait de voir concrètement comment vous faites, parce qu'évidemment, si je t'ai invité, c'est qu'il y a une particularité. Vous n'êtes pas n'importe quelle entreprise libérée. Vous avez réussi à instaurer une forme de revenu de base à votre niveau, et on ne sait jamais. Si jamais ça pouvait être pollinisateur ou on va pas dire contaminant, parce que c'est un peu connoté, mais comment est-ce que vous avez fait pour aller vers un revenu de base entre vous?
Alors, la mise en place d'un revenu de base, c'est quand même le résultat de tout un cheminement autour de l'argent, et notamment autour du mérite, qui est quand même très très lié à l'argent, surtout qu'on est dans un mécanisme, nous, où on sait exactement combien d'argent on apporte à l'entreprise, ce qui est un petit peu moins le cas quand on est salarié. Et du coup, il y a toute cette notion de comment on déconstruit ça. Donc, on a vraiment commencé avec des expérimentations de, par exemple, de revenus uniques, de dire peu importe ce qu'on facture, on touche tous le même montant. On a fait des expériences de mise en commun, de dire, bah voilà, on arrête de regarder d'où vient l'argent et puis après, on voit ce dont on a besoin. C'est des expérimentations qu'on continue un petit peu, mais on a aussi mis en place un revenu de base. Donc, c'est vraiment en s'inspirant pour moi de souvenirs que j'ai du mouvement français pour le revenu de base et de ce que ça préconise. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un montant qui soit fixe, qu'on reçoive tous les mois, indépendamment de notre activité professionnelle. Dans notre activité professionnelle, j'entends vraiment indépendamment de si on a trouvé des clients ou non. Et que cette somme-là, elle vienne de la part des personnes qui vont recevoir le revenu de base. Donc, quand j'ai dit on est 6 dans ASAE, aujourd'hui, il y a 3 personnes qui sont bénéficiaires. Les 3 autres personnes ne cotisent pas pour le revenu de base. Donc, c'est vraiment entre les personnes qui cotisent pour le revenu de base sont les personnes qui vont le toucher. Et donc, le montant qu'on s'est donné, c'est 1 000 euros. On espère pouvoir le faire grimper un petit peu. Mais pour l'instant, on a 1 000 euros mensuels. Et c'est vraiment le fait de dire, la manière dont on récupère donc ces 3 000 euros par mois, puisqu'on est 3, c'est de regarder la somme des facturations et de prendre un petit pourcentage. Donc, le pourcentage, il n'est pas fixe, puisque notre objectif, c'est d'atteindre 3 000 euros et pas de prendre X%. Mais il va être, donc, ceux qui gagnent plus vont cotiser plus et ceux qui gagnent moins vont cotiser moins, ce qui est pour moi un des intérêts de la redistribution de l'argent et de la mise en place d'un revenu de base.
Donc là, on touche en même temps l'universalité, l'inconditionnalité, l'individualité, effectivement, et avec une équité que notre système à la française ne réussit pas tout à fait à toucher. On a les scandales en ce moment des ultramillionnaires qui payent moins d'impôts que les classes moyennes. Donc là, vous avez réussi, en tout cas ce que j'entends, hein, non seulement à avoir une base fixe et en même temps une contribution à... Oui, en équilibre, mais du coup, qui change chaque mois, c'est ça, selon... donc, c'est un système très flexible, finalement.
Alors, le montant ne change pas, mais en effet, ce qu'on cotise change.
D'accord. Et du coup, j'imagine, hein, j'essaie de comparer un petit peu avec d'autres systèmes, je pense au RSA qui change tous les 3 mois, etc. Là, du coup, vraiment, c'est adapté à votre... à vos entrées mois par mois, il n'y a pas de mauvaise surprise avec des mois d'écart. Vous réussissez à être fluide au fur et à mesure des entrées, des sorties et à danser avec ça, quoi.
Oui. Alors, vraiment, ce qu'on a décidé aussi, c'est de partir sur un montant qui est vraiment accessible, puisqu'on est tous à plein temps, donc, ou assimilé plein temps. Donc, vraiment, 1 000 euros, c'est très accessible aujourd'hui dans notre situation économique. Et en même temps, de dire, il y a tout un travail qui est à faire autour, notamment un travail sur la déconstruction, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais la déconstruction du mérite, de dire comment on se sent chacun, chacune, à chaque fois que quelqu'un ne va pas ramener de facturation, mais va toucher de l'argent. Parce qu'évidemment, ça vient toucher dans des émotions, on a une visibilité directe, et du coup, c'est vraiment l'idée de travailler ça pour pouvoir petit à petit augmenter ce montant, pour qu'il devienne vraiment un montant viable, mais sans passer en force sur tous les aspects qui sont liés à la rémunération, à l'argent, à la gestion de pension aussi. On voit que c'est plus ou moins facile en fonction de notre niveau d'appartenance, notre niveau en fonction de la santé, des relations sociales.
Et
c'est
du coup,
le travail qui est autour qu'on doit faire pour que ça fonctionne.
Du coup, concrètement, tu peux nous donner des exemples de réactions? Qu'est-ce que ça réveille, cette forme de redistribution?
Ça réveille essentiellement des choses autour du mérite. C'est-à-dire que si je vais me mettre dans la position de la personne qui ramène le plus, parce que c'est plus confortable, c'est pas toujours le cas. Mais imaginons que là, j'ai une mission d'ailleurs qui me plaît pas forcément, mais je travaille du matin au soir, je ramène plein d'argent, et qu'il y a cette douleur de vraiment être en contact avec le fait de travailler pour gagner de l'argent. Et qu'à côté de ça, j'ai un de mes collègues qui décide de ce mois-ci de vraiment suivre ses aidants, de faire des choses qui ont du sens pour lui, et ben, au moment où on va mettre ça en place, il peut y avoir un sentiment d'injustice. Et c'est pas forcément qu'on y croit que c'est injuste, mais ça vient toucher des affects, de dire mais pourquoi moi je peux pas faire ça, et toutes ces choses-là, on les gère en groupe. Et pour la personne qui va gérer un sentiment d'injustice dans un sens, et pour l'autre personne qui va se sentir peut-être jugée sur son choix d'activité, alors qu'il y a un accord de groupe de ne pas aller juger le choix des activités des autres. Et c'est bien le principe d'un revenu de base, c'est on te le donne de manière inconditionnelle et pas si tu passes des accords de groupe de on juge ce que tu fais. Mais ce n'est pas parce que c'est ce qu'on a envie de vivre qu'on le vit profondément tous les jours.
J'ai envie, si tu veux bien, de développer un petit peu, parce que ça me semble très... très très exemplaire finalement d'un certain nombre de réactions de concitoyens et sans doute de moi aussi de dire voilà si je m'oblige à faire quelque chose que j'aime pas, qui me demande des efforts qui sont pas alors soit dans mes valeurs, soit dans mon rythme de vie, soit voilà au dépens de choses qui sont plus importantes pour moi. Je pense par exemple, comme tu le disais, quelqu'un qui travaille beaucoup et qui peut pas voir grandir ses enfants, ou quelqu'un qui travaille beaucoup dans quelque chose qui n'a pas de sens, qui lui semble servir à rien, ou même qui dans son métier finalement n'est pas reconnu ou vit ou est brimé par ça ou caricaturé ou voilà et du coup plein de raisons qui font que finalement notre activité professionnelle dans le cadre classique peut être mal vécue et finalement disons que si tout le monde vit la même chose, on se sent un peu comme tout le monde et puis on prend sur soi et puis voilà et c'est voilà finalement on se pose pas la question et puis on se rend pas compte non plus qu'on tire sur une corde et que potentiellement elle risque de casser ou qu'on prend sur soi entre guillemets. Moi j'aime beaucoup cette expression là parce que c'est plutôt bien vu dans notre société de prendre sur soi pour pouvoir bien vivre ensemble, etc. Et puis finalement, on se rend compte que ça a un prix. Et ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est que ce prix, c'est une histoire de tolérance et d'acceptation des choix de l'autre, finalement. C'est-à-dire si je vis pas bien les miens, sans trop m'en rendre compte, sans trop les conscientiser, et donc sans trop assumer non plus les choix que je fais, dire je fais ce boulot. Donc là, tu parles d'un collègue qui pourrait accepter une tâche ou un contrat qui n'est pas très en accord avec ses valeurs ou qui n'a pas beaucoup de sens ou il ne s'épanouit pas beaucoup, mais au moins il sait qu'il va pouvoir aligner des chiffres et puis avoir du confort matériel, de la sécurité. Finalement, comme il le fait sans trop en prendre conscience de ni à quoi il dit non, et donc ce qui tire chez lui psychologiquement, ce qui lui manque le prix qu'il paye, ni prendre conscience de pourquoi il le fait finalement. Il pourrait assumer en fait de le faire pour sa sécurité matérielle, pour le confort, pour d'autres choses que peut permettre l'argent. Finalement, comme il le vit pas bien parce que c'est pas en conscience et c'est pas en responsabilité, du coup, il pourrait mal vivre que d'autres vivent son rêve, quoi. Ce qu'il ne s'autorise pas à vivre, il pourrait mal le vivre et du coup ne pas l'autoriser. Ça me fait un déclic par rapport à toutes ces personnes qui finalement s'opposent à l'idée du revenu de base, non pas parce qu'ils sont contre l'idée en elle-même, mais parce qu'ils ont d'abord un vécu douloureux et que ça réveille une frustration parce qu'ils se disent je pourrais ou j'aurais pu vivre autre chose que toutes ces privations dont j'avais même peut-être pas conscience, mais qui arrivent d'un seul coup au moment où on se pose la question et en fait vous réussissez à le vivre en petit et du coup à dénouer ça au fur et à mesure, quoi. Et du coup vous prenez le temps aussi.
ça. Ça demande du temps. Et pour moi, dans les deux sens aussi, hein, c'est comment, en tant que personne qui peut avoir la possibilité de vivre davantage ce que j'ai envie de vivre, de vivre mon rythme, je viens soutenir les autres pour qu'ils puissent le faire aussi. On a vraiment une intention de casser aussi la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que, en effet, je peux aussi très facilement, on voit que la capacité de recevoir ou de donner, elle n'est pas égale entre les personnes, elle n'est pas égale entre les gens. Et on n'a pas non plus envie de se dire, bon, attends, si tu tapes, c'est ton choix. Moi, je suis décidée de rien faire, parce que si tout le monde choisit de rien faire, on n'a plus notre ville base. Hein.
Mmh.
Donc, il y a aussi une responsabilité collective. Et pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu d'ASAE, de ce qu'on essaye de mettre en place, c'est comment on se soutient tous et toutes, quel que soit l'endroit où on est. Comment on soutient la personne qui va avoir du mal à recevoir parce que dans sa construction du mérite, si elle n'a rien fait, ça va être dur de recevoir. Ou parce que si elle reçoit, elle va avoir un sentiment de redevabilité. Comment en groupe on s'occupe de ça? Mais comment on s'occupe qui a peur de manquer et qui va prendre des missions qui ne sont peut-être pas intéressantes? Du coup, comment on s'occupe tous ensemble éventuellement de trouver d'autres missions? Ou comment on prend ça mais en charge collective et de ne pas juste renvoyer chacun chacune à... Bah, c'est tes choix, parce que ça, en tout cas, on n'y croit pas. On dit que nos choix, ils sont quand même très impactés par le système dans lequel on est. Mmh. Et que du coup, c'est en groupe qu'on arrivera à les déconstruire.
Oui, donc ce que j'entends, c'est qu'il y a une notion de... Quand tu parles du système, il y a autant des leviers d'éducation, j'imagine, que des leviers liés à notre milieu social d'origine ou les pressions peut-être de ce qu'on peut entendre, etc. Est-ce qu'il y a des prises de conscience de cet ordre-là, des leviers qui nous font bouger et d'où est-ce qu'ils peuvent venir?
Alors, il y a beaucoup. Dès qu'on commence à rentrer dedans, on peut les voir, ces leviers-là. Mais ça revient beaucoup à ce dont tu parles, de tous ces leviers en lien avec l'éducation, que ce soit l'éducation genrée notamment. On voit qu'on n'a pas du tout le même rapport à l'argent et à recevoir et à donner en fonction de si on est un homme ou une femme. On voit que c'est très différent aussi en fonction de... J'ai perdu la fin de ma phrase, je vais la retrouver, j'en reviens. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de différences en fonction de notre éducation, mais que ce soit l'éducation genrée, que ce soit aussi comme on est une entreprise, qu'on a des communs, quel est notre rapport au travail non rémunéré, puisqu'on a quand même tout un fonctionnement de groupe qui fonctionne. Il y a toute une complexité dans laquelle on retrouve des patterns systémiques et dans lesquels on retrouve toutes nos histoires individuelles. Et pour moi, c'est ça qui est passionnant dans le fait de faire groupe, c'est de pouvoir vraiment toucher à toutes ces choses-là.
Oui, et si tu veux bien, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur, du coup, la personne qui fait le choix de ce mois-ci, en tout cas, on va prendre l'exemple que tu as pris, pendant un mois de ne pas travailler, par exemple, de ne pas chercher de contrat pour vivre autre chose. Du coup, j'entends que cette personne, c'est pas facile, comme on pourrait imaginer les personnes qui regarderaient Netflix toute la journée, hein, sans, avec une bière à la main si possible, et puis les deux pieds sur la table basse en pyjama. Donc on est dans la caricature, et finalement, de ne rien faire, de s'autoriser à faire quelque chose, j'ai mis plein de guillemets, hein, là, je les ai pas sous-titrés, mais en tout cas s'autoriser à faire autre chose que ce que notre société nous pousse à faire, c'est-à-dire un emploi rémunéré dans un contrat de travail et du coup qui serait une reconnaissance de l'utilité entre guillemets aussi. Finalement, c'est pas si simple parce que ça veut dire aussi déjà face à soi-même s'autoriser quelque chose qui est pas forcément dans notre éducation, une forme peut-être de reconnaissance de la légitimité de certains de nos besoins, tout simplement de ralentir, respect de son rythme, peut-être prendre soin de certains liens, les enfants, ou les parents malades, ou même soi-même, la créativité, etc. Des choses qui finalement sont pas mises en avant, sauf quand on a un confinement qui nous montre les essentiels, quoi. Mais et que cette personne, elle est aussi grâce au temps que vous prenez de vivre cette interdépendance, elle est aussi consciente de l'impact que ça a sur le collectif et elle est invitée à, oui, comme tu disais, de responsabilité individuelle et collective. Et ça me fait penser en fait au mot de citoyen finalement. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une citoyenneté. Tu parlais de petits groupes et je comprends mieux maintenant aussi par rapport à ce que tu disais. C'est-à-dire que cette conscience de l'interdépendance, j'imagine, est d'autant plus forte que vous êtes dans un petit groupe et que vous prenez le temps de clarifier, d'exprimer, de déconstruire tout ça, qu'il peut y avoir cette conscience de soi, de prendre soin de moi. Et conscience du groupe dont je fais partie et que j'alimente et en même temps qui me nourrit. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est l'individuation versus individualisme qui justement cette cohabitation entre le bien pour moi et le bien commun. Et voilà, j'ai une petite pensée aussi de l'autre côté, du coup, de cette personne qui s'autorise tout en ayant la clarté de l'impact de ses choix avec le collectif. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, sans dire de nom, bien sûr, mais les réactions des uns et des autres au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus faciles que d'autres?
Alors, il y a déjà ce que j'ai un petit peu nommé, mais il y a vraiment tout cet enjeu de commencer pour moi de recevoir plus que ce que j'ai apporté. Donc là, il y a vraiment un travail sur l'image de soi, sur toute la déconstruction de cette notion de profiter ou de pas profiter. Donc ça, c'est vraiment du côté de quand je reçois plus. Et dès que je reçois moins, il y a aussi toute cette déconstruction de... Alors, encore une fois, on joue avec des règles qui sont complexes et qu'on voit exactement que notre travail rapporte comme argent dans l'entreprise. Nous, notre modèle, c'est qu'on le voit très bien. Donc, c'est facile de se raconter que cet argent-là, il est à nous. C'est facile de se raconter qu'on l'a mérité. Et du coup, il y a tout ce détachement de dire c'est pas parce que c'est l'action que j'ai faite qui apporte cet argent que cet argent, c'est juste qu'il me revienne. Et ce travail-là, il demande quand même beaucoup d'énergie. Et il y a aussi d'autres réactions, inversement. Donc là, je suis vraiment dans comment on accompagne pour que ça fonctionne, mais aussi des réactions d'irritation d'une personne, par exemple, qui pourrait prendre beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu'elle a envie de faire, indépendamment de ce qu'elle reçoit. Et du coup, de tout ce travail aussi de demander au groupe. Alors, c'est vraiment des parties pris, hein. Je peux vraiment me connecter au fait que tout le monde n'a pas envie de vivre ça. Moi, j'ai une croyance forte que c'est ça aussi, faire groupe et faire société. Mais de pouvoir dire dans le groupe avant, de dire j'aimerais prendre 3 mois, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que ça a un impact sur vous? Et de pouvoir entamer une discussion, ça fait aussi partie pour moi de la désindividualisation dans les deux sens, dans la responsabilité, mais aussi dans la liberté. Je fais pas ce que je veux comme je veux, parce qu'il y a un impact sur les autres. Et du coup, comment j'annonce mes intentions et de voir si c'est tranquille pour le groupe, et si c'est pas le cas, est-ce qu'on peut prendre le temps d'aller vérifier comment on peut vraiment s'occuper de chacun chacune en respectant les rythmes, les envies, les différences, les points communs, etc. etc.
Je te remercie. Alors, je suis sans doute, je vous clarifie ma référence parce que j'ai regardé hier le cash investigation sur les milliardaires français. Il paraît que la France est au top de ses milliardaires et de ses millionnaires. On a beaucoup de riches. Et dans cet épisode-là, il parle du ratio d'équité, c'est-à-dire le salaire que s'offre le chef de l'entreprise, le président, le PDG, et la moyenne de ses salariés. Donc, on n'est même pas sur le salaire le plus bas. Ils n'ont même pas osé. Mais voilà, ce ratio d'équité est censé donner une idée de l'échange, de l'équilibre, entre guillemets, d'une entreprise. Et dans ce cash investigation, il y a l'exemple de Carrefour où le patron a un peu triché puisque son ratio, il le compare à ses cadres et non pas à l'ensemble de ses employés, et où en fait plutôt que le 47 fois, donc il gagnerait 47 fois la moyenne, en fait il est à plus de 360, je sais plus combien, enfin quelque chose de complètement horrible. Et je me rends compte avec l'éclairage que tu viens de nous proposer que finalement dans le monde je veux dire habituel, parce que même si on bosse pas tous pour une entreprise, de toute façon, on est souvent dans des hiérarchies où il y a des écarts de rémunération assez importantes. T'as parlé déjà entre femmes et hommes, mais plus généralement, et où finalement dans cette entreprise, celui qui travaille ou celle qui est à la caisse depuis plus de 16 ans et qui est juste au SMIC, ne choisit pas du tout en fonction de ce qu'elle apporte à l'entreprise, parce que en tant que caissière, elle fait quand même un boulot essentiel, même si maintenant on commence à les remplacer, ou celui qui range les rayons et qui gagne à peine plus, finalement leur rémunération n'est pas du tout compter par rapport à leur apport, à leur utilité ou leurs compétences ou même le sourire qu'ils apportent et le bien-être. Je pense à la caissière, hein, la petite vieille qui vient tous les jours pour faire ses courses et puis avoir un sourire et quelques mots, échanger avec quelqu'un. Ça a quand même une utilité publique tellement plus grande. En tout cas, hors proportion avec le salaire de plusieurs millions que s'autorise ce chef d'entreprise et qui se fait voter par ses actionnaires tous les ans. Donc on voit que dans le monde, finalement, on nous pose pas la question, mais pour une bonne raison, c'est que sans doute que ça remettrait beaucoup, beaucoup en cause les rémunérations de tout le monde, finalement, si on devait se rémunérer au mérite. Donc déjà, dans le monde, on n'a même pas ça, on n'a même pas cette rémunération au mérite, mais on y croit. On n'a pas le recul que c'est déjà complètement dépassé. Et en fait, on est quand même construit avec ça, et ce qui nous empêche d'arriver à quelque chose de plus fluide et de plus... oui, c'est le mot interdépendant qui me vient... je pense aussi aux tontines traditionnelles en Afrique, où on donne de l'argent à la personne qui en a besoin et on se pose pas de questions. J'ai vraiment du coup, à l'aune de votre expérience de 3 ou 6, là, beaucoup d'éclairage ou beaucoup de questions ou j'ai envie de revisiter beaucoup de rapports, de liens à l'argent et de rapports qui nous sont imposés et qui nous sont présentés comme normaux, mais c'est complètement normal qu'un chef d'entreprise gagne 368 fois la moyenne de ses employés. On parle même pas du SMIC. Donc merci déjà pour ce partage. Là, la question qui me vient, c'est du coup concrètement, au fur et à mesure, juste imaginons que quelqu'un qui nous écoute voudrait se lancer là-dedans. Quelles sont les étapes concrètes par lesquelles tu pourrais proposer de passer pour construire ça? Parce que j'entends que c'est pas quelque chose pareil qui se transfère tout cuit, en fait. Ça doit partir d'une envie. Je ne sais pas quelles étapes tu pourrais conseiller.
J'ai l'impression que vraiment le démarrage, c'est de construire groupe. En fait, c'est de construire groupe d'appartenance, de pouvoir se connecter au fait que... de se connecter de manière individuelle au fait que le bien-être des autres personnes avec qui je vis m'est important. Sans ça, on va vite retomber dans un optimum individuel qui est contre-productif. Et ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on peut cheminer. Il y a vraiment, pour moi, à prendre en compte toute la culture avec laquelle on a grandi. Et ça va être le deuxième point. Donc, une fois qu'on a ce cercle d'appartenance, ne pas penser que ça va être facile. Et ne pas penser non plus que ça va être extrêmement difficile. C'est accessible, mais ça demande du temps. Ça demande vraiment de l'accueil aussi des réalités de chaque personne. Et une fois qu'il y a ça, j'ai l'impression que c'est assez simple. Mais ces deux étapes sont complexes. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en place dans un couple. On se pose beaucoup moins la question quand on est en couple et encore une fois, c'est pas tout couple, mais il y a beaucoup de couples dans lesquels on mélange l'argent et on se pose pas la question de est-ce qu'on a mérité ou pas, et est-ce qu'on va tous les deux au restaurant, est-ce qu'on a le droit de prendre le menu qu'on veut, ou est-ce que parce que tu gagnes moins, tu prends autre chose. Mais dès qu'on sort de ce cadre-là, on a du mal à créer des systèmes d'interdépendance. On a du mal pour plein de raisons. Et comme on a un peu une expérience commune de la communication non-violente, je me dis qu'on peut aussi se retrouver là-dessus. Mais pour moi, il y a aussi vraiment le « est-ce que j'arrive à légitimer le vécu de chaque personne ?» plutôt que de chercher ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas bien, ce qui est normal, pas normal. Et on voit, hein, dans toutes nos expériences qu'on fait dans ASAE, que dès qu'on essaye de repartir sur normal, pas normal, ou c'est bien, c'est pas bien, on casse toute capacité d'être en lien parce que aucun de nous n'a envie qu'on lui dise que son envie, elle n'est pas normale. Et si je dis à quelqu'un, si tu prends 3 mois sans travailler, c'est compliqué pour moi parce que vraiment aujourd'hui dans mon taf, c'est un peu compliqué. Et l'idée de travailler plus pour que tu puisses avoir des revenus sans que toi tu mettes la main à la pâte, c'est un peu difficile pour moi, c'est entendable. Le fait de dire, mais là en fait tu t'en fous du collectif, ce que tu fais c'est pas respectueux, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Et ça demande un gros travail de déconstruction de ce qui est normal, de déconstruction de nos jugements qu'on peut avoir et de réussir à accueillir les autres personnes là où elles sont, telles qu'elles sont. Et ça demande du temps aussi. Et c'est souvent du temps qu'on a du mal à prendre parce qu'on se dit que c'est inutile, parce qu'on n'a pas cette culture-là. Et ça me semble pourtant essentiel. Et en même temps, ça crée des collectifs où moi, j'ai beaucoup de gratitude de toutes les personnes qui sont embarquées dans cette aventure avec moi, parce que c'est vraiment des relations d'évolution, d'interdépendance. On crée quelque chose qui, pour moi, est modélisant et est soutenant dans ma vie.
Oui, j'entends. Alors, ça me rejoint sur la notion de prévention. Finalement, le fait de d'abord prendre le temps de se connaître, de s'estimer, de se choisir aussi, de dire voilà, on va co-créer ensemble un collectif, on va y participer et on va le faire évoluer au fur et à mesure. De prendre ce temps de lien finalement avant, c'est le connect before correct de la communication non violente, mais voilà, plus largement. De prendre le temps de la prévention et du lien avant de se lancer dans l'action sans forcément le faire en conscience. Et j'entends aussi cette idée de se départir, de se détacher de repères extérieurs finalement, même si voilà ce que vivent les autres à l'extérieur du collectif choisi, ça a sa valeur, etc. Mais on voit la limite des généralités ou des normes, etc. Et finalement, peut-être même pour en recréer une, mais une qui sera adaptée à ce qui est présent, quoi, à ce que les gens vivent au quotidien. Et oui, c'est un double effort, comme tu dis, qui est contre-intuitif par rapport au rythme effréné. J'entends beaucoup le besoin d'efficacité. Non, le besoin d'efficacité n'existe pas. C'est prendre son temps ou au contraire respecter son rythme. Rapide ou lent, mais voilà, c'est effectivement déconditionner l'histoire du temps, de l'efficacité et l'histoire des normes extérieures pour se recentrer sur qu'est-ce qui est en jeu là maintenant pour toi et pour moi, et comment on fait une fois que c'est clarifié et une fois que c'est partagé pour faire du gagnant-gagnant. Et en même temps, comme pour toute prévention, je peux pas m'empêcher de me dire que forcément vous gagnez du temps pour après, parce que ce temps-là, comme tu dis, c'est assez marquant quand tu dis, c'est ni difficile ni facile, mais ça prend du temps. Et après, c'est facile. C'est-à-dire, une fois que vous mettez les outils en place, comme vous avez fait tout le boulot, finalement, c'est beaucoup plus fluide. À combien t'estimerais le temps, en sachant que vous êtes un collectif de 3, entre 3 et 6 pour l'instant, de clarification et de co-construction?
Alors, nous, Je rajoute quand même quelque chose, c'est aussi être avec des personnes qui ont envie de prendre ce temps-là. Pendant longtemps, on n'était pas tous alignés sur cette stratégie-là, et sincèrement, on y perdait notre temps, notre énergie, on n'en ressortait rien. C'était difficile pour tout le monde. Et le fait d'avoir acté que, à partir d'un moment, on a acté que ces temps, nous on appelle ça de la gestion de tension, que ces temps, ils seraient obligatoires et que personne ne rejoindrait ASAE si il ou elle n'était pas dans une démarche de faire ces temps-là. Là, ça a été beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que globalement, on passe 2 jours tous les 3 mois ensemble. Et dans ces deux jours, il y a des temps de création de contenu, de discussion sur... Enfin, on a tout confondu, ces deux jours tous les trois mois, plus des échanges un peu réguliers quand on a envie. Et on a une demi-journée qui est vraiment dédiée à toutes les tensions qu'on a. Notre objectif dans ça, c'est de recréer du collectif, parce qu'on voit qu'on ne peut pas parler d'argent si jamais on s'en veut, parce que l'argent va être un levier de punition, on le sait, on le voit. Et du coup, on a besoin d'abord de se reconnecter les uns aux autres et de pouvoir dire tout ce qu'on a qui pourrait nous empêcher d'être fluide dans le processus. Et une fois de temps en temps, donc ce n'est pas forcément régulier, on a une demi-journée où on va particulièrement parler de l'argent. Alors, pas du revenu de base, parce que ça, c'est un acquis, mais on a aussi une partie de l'argent qui est mise en commun et qu'on va distribuer en fonction des besoins. Donc, on va discuter autour de ça, de dire bah, cette partie-là, qui a besoin de quoi, qui veut prendre quoi, quels sont les projets qu'on peut financer, et cette partie-là nous prend, voilà, ça nous prend quelques heures de manière irrégulière. Bon, ça peut être tous les trois mois, tous les six mois, ça dépend des fois.
Est-ce que tu peux nous parler, il nous reste quelques minutes, de justement ce que vous expérimentez autour de l'argent, au-delà du revenu de base?
Alors, c'est vraiment ce qu'on appelle le pot à paillettes, parce que c'est vraiment l'endroit où on expérimente aussi sur comment on fait des choses différentes. Et donc, on s'est mis une règle, c'est 5% de tous nos revenus qui sont mis à l'intérieur de ce pot-là. Donc, c'est 5%, quel que soit le montant qu'on facture. Et dans ces 5%, on va le diviser en deux. Il y a la moitié de ces 5% qui vont être pour venir soutenir des associations ou des groupes qui nous parlent, des activités qui nous parlent, parce qu'on a aussi la croyance que au-delà de notre groupe, il y a plein d'autres activités qui n'ont pas la chance de gagner de l'argent aussi facilement que nous, notamment tout le monde associatif, hein. Et donc de dire on a envie aussi de soutenir ces actions-là. Et on a l'autre moitié qui est vraiment, on le met littéralement au milieu de la table. C'est pas du vrai argent, mais c'est symbolisé. C'est au milieu de la table. Et on discute jusqu'à ce que tout cet argent, donc, soit réparti sur des personnes. Et à chaque fois qu'on fait un mouvement, on va pouvoir expliquer, ben voilà, moi, j'ai envie de te donner autant parce que je sais qu'il y a ce projet-là et que j'aimerais que tu aies du temps pour le faire. Ou bien j'ai envie de prendre autant parce que j'ai ce projet-là et j'aimerais avoir du temps pour le faire. Et on va rester dans cet espace-temps où autant de temps qu'il faut pour que les mouvements se stabilisent. Et une fois que les mouvements sont stabilisés, on fait un tour pour vérifier est-ce que tout le monde est tranquille avec ce qu'on vient de créer. Et c'est une autre manière aussi de pouvoir redistribuer l'argent avec d'autres règles du jeu que celles qu'on connaît habituellement de tu travailles, t'as de l'argent, cet argent il est à toi, indépendamment de si c'est juste, si c'est pas juste, si c'est équilibré ou pas, si t'en as besoin ou pas. Donc on essaye de faire ces espaces-là qui sont un peu différents.
Et donc juste pour vérifier que j'ai bien compris, cette deuxième partie, c'est vraiment entre vous?
Oui, ça c'est vraiment entre nous.
Et du coup, entre 3 ou 6?
Alors ça, on fait avec tout le monde, on fait à 6.
Est-ce qu'il y a une prochaine étape pour Azaé? Est-ce que vous avez... une ambition de grandir ou de vous complexifier, ou est-ce que vous en êtes par rapport à ça?
Alors, il y a vraiment l'ambition de grandir, notamment parce qu'on a envie de pouvoir jouer plus, et pour jouer plus, il faut être plus nombreux. Il y a aussi la conscience qu'à 3, nos libertés de ne pas travailler, elles sont limitées, c'est-à-dire que tout de suite, dès qu'il y a une personne qui s'arrête, ça repose sur 2 personnes, ce qui est tout de suite très pesant. On a la croyance que si on était plus nombreux, on pourrait vraiment fluidifier tout ça. Et puis, on est aussi parti sur des montants qui sont à faible enjeu pour nous. On sait que si ça se passe mal, on ne met pas en péril ni notre survie, ni notre survie individuelle, ni la survie collective, ni l'intégrité des relations. Et l'objectif, c'est de pouvoir monter un petit peu tout en gardant la sécurité. Donc ça, c'est vraiment les prochaines étapes, c'est comment on arrive à monter petit à petit ces sommes pour avoir des sommes qui permettent de vivre correctement sans se mettre en danger si c'est pas l'objectif n'est jamais de passer en force par rapport aux réticences ou au blocage des personnes, mais vraiment de se dire comment on s'accompagne en douceur.
Oui, parce que chaque passage en force, finalement, on le repaye avec un mouvement de balancier inverse. C'est pas la peine. On pourrait, en tout cas, ça me donne envie d'imaginer que au niveau national, ce serait possible et que on recommencerait à créer du lien déjà entre les communautés qui sont polarisées aujourd'hui. On pourrait rajouter un petit peu de paix, d'entente, de reconnaissance, de légitimité des besoins de chacun et de tous pour pouvoir instaurer un revenu de base. J'ai l'espoir que dans notre société, on pourrait instaurer un revenu de base en même temps qu'on créerait du lien et que ça serait en même temps un outil d'égalité, de conscience, d'un commun partagé. Mais bon, ça c'est un autre périmètre en tout cas. Est-ce que si quelqu'un a envie d'en savoir plus sur ASAE, est-ce qu'il y a un contact? Est-ce que vous avez un site?
Alors, on peut nous contacter sur contact@asae.net et on a un site internet qu'on est en train de refaire. Donc, il n'est pas encore exactement à l'image qu'on aimerait, mais on y travaille. Donc, mais en tout cas, il est accessible.
Merci beaucoup pour ce que vous partagez, ce que vous explorez, en espérant que ça nous donne envie, à nous, nous tous, moi et tous nos auditeurs et auditrices. Voilà, au moins savoir que ça existe quelque part, même si on n'a pas forcément la facilité de le vivre là tout de suite maintenant. Ça, déjà, ça réchauffe le cœur. Merci beaucoup pour tout ça. Et ça interroge. Et puis pour ceux qui auraient envie de s'en inspirer, de vivre quelque chose de similaire, je vous invite à rejoindre, en tout cas de vous renseigner auprès de Julie et d'Azaï. Merci beaucoup Julie.
Merci.
À tout bientôt.
À bientôt.